Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, préparée par Arnaud Jamin et Stéphanie Valois et mise en musique par Valentine Chedebois. À la technique ce matin, Florian Dorimini. Porter son regard cette semaine sur cet extrait de l'essai sur les révolutions de Chateaubriand paru en 1797 et dans lequel l'écrivain met en scène sa douleur de vivre avec une gravité et un lyrisme aussi exquis qu'outrancier qui, s'ils étaient employés par un contemporain, susciterait aujourd'hui la raillerie. Heureusement que les siècles précédents jouent parfois leur rôle de bouclier. Je vous lis l'extrait. « Je me suis sauvée dans la solitude et j'ai résolu d'y mourir sans me rembarquer sur la mer du monde. » J'en contemple encore quelquefois les tempêtes, comme un homme jeté seul sur une île déserte qui se plaît par une secrète mélancolie à voir les flots se briser au loin sur les côtes où il fit naufrage. Notre invité est un contre-ténor à l'œuvre imposante. Une astéroïde de la ceinture principale lui a été dédiée et un double inanimé de lui se trouve au musée Grévin. Ces deux informations sont sans doute les moins importantes le concernant, mais elles font leur effet. À la tête d'une académie qui porte son nom, cet homme dont la voix céleste a résonné dans le monde entier a sorti récemment deux disques chez Warner. À sa guitare avec le guitariste Thibaut Garcia et le 18 février dernier Dua Lita, album sur lequel il dirige la soprano hongroise Emeke Barat. Il fera ses débuts en tant que chef d'orchestre sur scène avec elle, accompagné de son ensemble Artaserse le 11 mars prochain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et le 13 mars à l'église de la Trinité à Lyon.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Philippe Jaroussky.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, mais la première question vous fera peut-être nier la phrase que vous venez de prononcer. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Ah oui, je crois oui. Oui, je suis content. Ne serait-ce que par la possibilité de, je dirais, de sentir les choses. Plus je vieillis, plus je me dis qu'en fait, on est juste des immenses capteurs sensoriels. On voit, on touche, on sent. Et rien que cette possibilité de jouir de toutes ces perceptions, de ressenti, je trouve que c'est une fête en soi de vivre pour ça.
Mais c'est presque la sagesse suprême, ce que vous soulevez là, Philippe Jaroussky, puisque en fait, être une créature sensorielle, c'est être dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire cette chose qu'on poursuit sans cesse, dans laquelle on arrive peu à s'installer.
Oui, et peut-être que le fait d'être devenu un chanteur finalement, d'être musicien puis d'être devenu un chanteur, on travaille beaucoup nous sur les sensations. On pourrait dire d'ailleurs que l'art de chanter se base beaucoup sur le plaisir de base de chanter. On chante en général quand on est de bonne humeur. Alors évidemment, on va pas résumer le fait d'être un chanteur d'opéra en étant juste de bonne humeur, on doit exprimer tous les sentiments, mais cette énergie de ce plaisir, ce goût premier de chanter nourrit les sens, je pense, oui.
Et ça vous arrive de chanter en étant triste ? Ou alors le fait de chanter comme le corps s'engage justement fait qu'on sort de cette tristesse ?
Je dirais qu'on est, on n'est pas tous les mêmes. J'arrive à chanter quand je suis triste. Mais t'arrivais aussi parfois de devoir même chanter pour des événements douloureux, les funérailles de quelqu'un que je connaissais, des choses comme ça. J'arrive à distancier la douleur que je sens, mais quand je me mets en acte de chanter, je retrouve une forme de distance. C'est plus totalement moi, c'est l'autre personne qui chante, je dirais. Il y a un côté un petit peu schizophrène parfois.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Alors plutôt bien. Ça va être très ennuyeux pour vous.
C'est non, parce pas que du tout.
Mais c'est vrai que, je dirais, c'est pas de la prétention, je pense, de dire qu'on a un bon ego. C'est-à-dire qu'avoir un bon ego, c'est effectivement, justement, je pense, se supporter soi-même. Être plutôt, pouvoir se regarder en face, se dire qu'on n'a pas grand-chose à regretter. Et essayer quand même, parfois quand même, de se poser aussi des questions. Ça fait partie, je pense, du devoir de tout à chacun. Je pense que je peux, comme toute personne, parfois blesser des gens, être maladroit, manquer d'empathie. Je pense qu'on doit tous faire un travail, notamment sur l'empathie, je pense. Et en ce moment, vu les informations, c'est vraiment quelque chose de central. Et beaucoup de choses partent de ça. Donc voilà, on va dire pour résumer que je me supporte bien, mais que de temps en temps, je me pose des questions aussi sur moi-même, évidemment.
Françoise Hardy, j'ai coupé le téléphone pour introduire votre réponse à la question concernant ce qui vous donne envie de vous lever, Philippe Jarouski. Vous êtes un grand lève-tard et vous dites que c'est une forme de paresse mais aussi une sécurité quand vous devez chanter le soir. Vous prenez ça comme un vrai luxe dans la vie et vous culpabilisez rarement. Alors ça ne révèle pas ce qui est votre moteur pour vous lever, mais ça me fait très plaisir d'entendre l'éloge du lever tardif auquel je souscris mais qui a toujours mauvaise presse aujourd'hui.
C'est vrai. Et malheureusement, j'ai dû sacrifier aujourd'hui pour vous ce lever tardif.
Oh, pour venir dans
les studios un dimanche matin. Mais c'est vrai que j'ai aussi cette chance de faire un métier où effectivement tout est décalé vers le soir, vers la nuit. Donc, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nuit. Je trouve qu'il y a un espace temps qui change. Les rapports même entre les gens changent la nuit. Et c'est vrai que le matin, j'aime bien prendre mon temps. Et parfois trop, je dirais. Je vois les heures du matin, le peu d'heures du matin qui me reste défiler. Je me dis, on est déjà l'après-midi. Et c'est vrai que parfois, j'aimerais être un petit peu plus matinal.
Il paraît qu'on est tous inégaux devant le sommeil. Moi, ça me rassure un peu parfois. Parce qu'on nous accuse facilement de paresse, en fait, quand on se lève tard. Alors que se lever tard, ça veut aussi dire se coucher tard et travailler jusque tard.
Oui, alors je dors beaucoup. J'ai appris à dormir beaucoup, puisque quand on chante, c'est une énorme sécurité.
Et comment est-ce qu'on apprend à dormir beaucoup ?
C'est un conditionnement. C'est vrai qu'effectivement, on décale un petit peu. Je me couche en général plus vers 1h, 2h du matin, pour me réveiller vers 11h midi.
Ah oui.
Mais le jour des concerts, c'est vraiment une énorme sécurité. Et ça évite aussi d'angoisser, parce que si moi je me lève le jour d'un concert, d'un récital par exemple, à 8h du matin, que j'ai mon raccord sur scène en général vers 16-17h, que le concert est à 20h, le temps d'angoisse est beaucoup plus long, le temps du trac. Alors qu'effectivement, si je vois pas trop la journée passer, j'arrive sur scène et je suis déjà pas trop fatigué de la journée et que je peux donner le meilleur de moi sur scène évidemment aussi.
Donc une sécurité d'environ 10-11 heures parfois au moins dans la chambre à coucher, mais pas... Un sommeil de 10-11 heures, c'est fragmenté, j'imagine, pendant cette période.
C'est fragmenté, mais oui, je suis un gros dormeur quand même. Hein. Il me faut minimum 9 heures pour me sentir bien.
D'accord. Dans un instant, il sera entre autres question de Schubert, du Caravage, d'Anneke, de Kundera, d'Inégalité, de Regard sur soi, de Monteverdi et de Rodin. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures, autant dire l'aube.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
C'est juste une seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève. De l'or au coin des lèvres. C'est juste que j'y pense encore un peu. À nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne, des mots qui me reviennent. Je te vois loin la bouche, c'est juste nos lèvres qui se touchent. C'est juste que je cherche encore tes yeux. Je cherche encore tes yeux. Je
mer bleue de Chien Noir dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Philippe Jarouski.
Ils écoutent la musique avec un téléphone. Ils parlent dans la rue avec un téléphone. Ils se photographient avec un téléphone. Et même ils se dirigent avec un téléphone. Et moi j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis.
Téléphone de Philippe Catherine, car on a décidé de ne passer que des chansons avec le mot téléphone dedans. Non, plus sérieusement, il s'agit d'introduire ce que vous aimeriez changer dans votre environnement. Philippe Jarouski, vous avez eu cette réflexion. Il m'arrive de plus en plus souvent de me rappeler la vie avant les téléphones portables et les réseaux sociaux. Il y avait une forme de liberté qu'on a perdue sans s'en rendre vraiment compte.
Oui, ça a été un peu pernicieux. On était très contents de se joindre les uns les autres. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on devait être tout le temps joignable. Et puis maintenant, effectivement, on doit en plus mettre presque toute sa vie sur son téléphone. Et c'est vrai que je pense que même avec la crise du Covid, ça a été aussi encore plus un refuge, puisque on voyait beaucoup moins de personnes. Donc parfois, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont un peu comme meilleur ami leur téléphone, finalement.
Et c'est vrai qu'il est difficile de se tenir loin de son téléphone et des réseaux, mais on n'est pas uniquement captif des autres, en fait, c'est surtout de nous-mêmes que l'on est captif.
Oui, 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 et je regardais des reportages là-dessus, ils disent qu'effectivement, le fait de regarder son Instagram, son Facebook, ça libère chez vous des endorphines, des hormones de contentement, comme manger du chocolat ou regarder une série, et on se sent un peu attrapé par ça. Ouais, finalement, on est tous peut-être... sans le savoir, des grands, on est devenu complètement addict de pas mal de choses. Ouais.
Et puis je regrette l'excuse suprême qui était « Désolé, mais je n'avais plus de crédit sur ma carte téléphonique ».
Oui.
On peut plus dire ça.
On peut plus,
c'était pratique.
Non.
Passons à votre engagement dans l'habitat du monde auquel chacun choisit de participer d'une manière ou d'une autre. Vous, Philippe Jarouski, c'est l'inégalité sociale qui vous préoccupe. Vous venez d'une famille de banlieue de classe moyenne, c'est ce que vous dites, qui vous a inculqué certaines valeurs. Et vous trouvez dommage, là je vous cite, que l'argent et la possession de biens matériels soient devenus une obsession qui rend malheureux beaucoup de gens. Je me suis engagée dans la création de mon académie il y a 5 ans, justement pour pouvoir donner accès à la musique classique à des familles qui ne pensaient pas cela possible. Là vous parlez de l'académie musicale Philippe Jarouski, créée en 2017 au sein de la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, une académie qui a pour vocation d'accompagner gratuitement et sur le long terme des enfants et de jeunes adultes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers ou techniques de faire de la musique.
Oui, je dirais l'inégalité sociale et l'inégalité des chances. Ça a été quand même un des thèmes les plus forts, je dirais, en France, de pouvoir offrir les mêmes chances. Alors, effectivement, c'est peut-être un petit peu idéaliste. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que, notamment pour la musique classique, on dit souvent que la musique classique est élitiste. C'est vrai qu'elle coûte cher au début. Moi, je l'ai vu justement quand j'étais en banlieue parisienne, et les partitions, les instruments, c'est un véritable budget pour les parents. Et c'est ce que j'ai voulu gommer avec l'académie. Et de se rendre compte qu'effectivement, de toute façon, la musique classique a une force qui emporte tout sur son passage, je dirais. Et je suis très très fier de ce projet, je dois dire, parce que on a parfois tendance aussi, peut-être, à se laisser aller, nous les artistes, à une forme de discours, de dire oui, faudrait changer les choses, et puis de pas faire grand chose. Alors, j'ai décidé à mon petit niveau d'offrir ces cours, cette porte ouverte sur la musique classique. Et on suit les enfants 3 ans et on essaie de les réintégrer dans les conservatoires autour. Et sur les 2 promotions qui ont déjà quitté l'académie, on a 70 à 80% des enfants qui continuent la musique après être passés par l'académie. Donc c'est une vraie fierté et c'est une vraie surprise aussi, parce que je ne pensais pas qu'on arriverait à un tel pourcentage. Et ça, je pense que voilà, je rends hommage aussi à tous les professeurs. Il y a une 15aine de professeurs à l'académie qui rivalisent d'ingéniosité pour tout simplement faire aimer cette musique aux enfants.
Je crois que vous avez le projet d'ouvrir un deuxième pôle à Pantin.
Exactement, voilà, les travaux vont commencer, donc il faudrait être un petit peu patient. Ça a pris du retard aussi avec la pandémie, mais on aura donc une antenne à la scène musicale et une antenne à Pantin.
Philippe Jarouski, j'ai lu quelque part que l'enseignement était pour vous une drogue dure.
Oui, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs avec l'académie, un petit peu avant. C'est vrai que tous les ans, je suis entre 5 et 6 chanteurs. On fait 3 fois une semaine d'académie, de masterclass, on pourrait dire, mais de cours privés. Et c'est vraiment très enrichissant pour moi, j'espère pour eux, mais c'est des vraies rencontres. Il y a une affection qui se crée. Et puis, effectivement, enseigner, c'est aussi il y a un effet miroir qui est fantastique. C'est-à-dire que quand je chante après une semaine d'enseignement, je chante mieux. Parce que j'ai pu voir qu'est-ce qui fonctionnait. J'ai peut-être pu, moi aussi, affiner ma pensée par rapport à l'acte de chanter. Et en fait, ça m'apporte autant que j'espère je leur donne.
Alors, j'adore parler de labeur et d'ouvrage avec les artistes, parce que justement, on n'en parle pas assez, on pense toujours qu'on arrive, et puis ça y est, on est Mozart, pas du tout. Tout est travail, labeur, sueur. Et dans une interview, vous dites qu'on vit dans une société qui valorise la vitesse, la performance, et pas l'effort. Et j'ai trouvé ça très intéressant que vous disiez aussi qu'il vous a fallu beaucoup de temps, 6 ou 7 ans, avant de trouver votre voix.
Oui, moi j'étais instrumentiste à l'époque, et quand j'ai commencé à chanter, j'ai eu ce plaisir immédiat dont on parlait tout à l'heure. Ça m'a fait du bien. Et puis petit à petit, il y avait une forme d'inconscience au début, et on m'a commencé à me mettre très tôt sur une scène, dès l'âge de 20 ans. J'ai fait mon premier opéra à 20 ans, j'avais que 2 ans de chant, et tout se passait bien. Puis petit à petit, la peur, l'appréhension, l'angoisse de se dire pourquoi. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? A créé des difficultés. Et j'ai eu des difficultés et il a fallu vraiment que je travaille vraiment beaucoup sur la technique, sur la voix, sur comment faire résonner ma voix dans mon corps, comment faire résonner les sentiments à travers ma voix. Il m'a fallu beaucoup d'années, oui.
Vous parlez des castrats, ces voix surhumaines qui n'existent plus, et vous dites qu'aujourd'hui il existe 2 solutions pour les remplacer, les mezzo-soprano ou les contre-ténors, ce que vous êtes. Mais ce n'est pas une chose facile.
Non, parce que, alors curieusement, c'était le paradoxe de la castration peut-être, mais ça faisait un peu des surhommes. On voit dans les caricatures qu'en général, la testostérone chez les hommes notamment arrête à un moment la croissance. Donc c'est pour ça que dans les caricatures, on voit les castrats dépasser de 2-3 têtes tous leurs collègues, avec des grandes cages thoraciques, ils étaient souvent assez gras d'ailleurs. Mais ils avaient des cordes vocales très petites, de la taille de celle d'un enfant quasiment. Donc ça leur donnait une soufflerie gigantesque. Et une virtuosité qu'on ne peut pas imaginer. Et un brillant aussi dans la voix. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours qu'en tant que contre-ténor, notamment, on chante ce répertoire, mais il faut avoir l'humilité de se dire que peut-être on n'oserait peut-être pas le chanter si on les entendait. Je pense que la vraie différence avec un autre chanteur, c'est le souffle. Parce que finalement, un chanteur se met en danger au moment de la respiration. Donc comme il respirait 2 à 3 fois moins qu'un chanteur, ça devait donner une impression... assez surnaturel.
Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut accroître sa volonté ou sa discipline? J'imagine qu'il vous en faut beaucoup pour arriver à ce niveau.
Je crois que la discipline, je pense que ça dépend. Je dirais que quand on fait un métier de passion, c'est très facile à dépasser parce que il y a un effort, il y a parfois des moments de découragement, mais t'arriver de pas arriver à chanter quelque chose ou de pas être en forme. Mais il y a toujours un moment où vous êtes récompensé pour l'effort que vous faites. Et c'est ça qui est très plaisant dans le fait d'être un artiste. C'est que, voilà, déjà de chanter de la musique sublime, c'est déjà une récompense en soi. Alors, effectivement, parfois, il y a des moments de découragement, mais ils sont vite dépassés. Thank you.
Adagio du quintet à cordes en ut majeur D956 de Schubert, que vous connaissez bien, Philippe Jarouski, par l'Emerson String Quartet avec Rostropovitch au violoncelle. C'est l'une des œuvres qui vous ont aidé à faire face au monde. Œuvre de 1828 que vous trouvez métaphysique et qui apporte, selon vous, une grande sérénité face à l'existence.
Oui, c'est une œuvre qui m'a énormément marqué quand j'étais adolescent, quand j'étais violoniste encore et pas encore chanteur. J'avais 15-16 ans. Et j'étais, vous savez, un peu, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que même quand on aime la musique classique, on l'écoute un petit peu comme un adolescent. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de m'arriver d'écouter la musique dans le noir, dans ma chambre, à fond, et d'essayer de vivre le plus intensément cette musique. Et effectivement, c'est un air qui dure, un morceau qui dure plus de 10 minutes, je crois, avec cette mélodie tellement étendue, qui, une espèce de sérénité, d'acceptation de la finitude aussi de la vie. D'une philosophie absolument vraie. C'est, pour moi, c'est vraiment l'exemple type de ce que la musique classique peut apporter. C'est-à-dire, ça va au-delà de la musique. C'est un air qui vraiment vous parle de la condition humaine, avec cette douceur si particulière à Schubert aussi.
Vous dites que vous avez découvert des sentiments qui vous étaient jusqu'alors inconnus grâce à la musique classique.
Oui, je trouve qu'il y a une palette de sentiments dans la musique classique qui va vraiment, qui est extrêmement riche. C'est vrai que je dirais même parfois, peut-être moins maintenant, mais quand j'étudiais le piano, le chant, j'étais vraiment toute la journée baigné de musique, il m'arrivait parfois de penser à une musique par rapport à un sentiment que je ressentais. C'est-à-dire l'inverse. Finalement, d'avoir envie d'écouter telle musique parce que j'avais ce sentiment-là en moi.
Pour l'accompagner.
Voilà.
Donc le sentiment existait déjà.
Voilà,
était
et pour l'enrichir, peut-être même pour finalement rester un peu plus longtemps dans ce sentiment. La musique, elle vous permet aussi peut-être de cultiver ça, de pas passer, peut-être d'approfondir un sentiment chez quelqu'un.
Vous dites aussi que la musique est une compagne idéale contre la solitude.
Ah oui, et ça je l'ai bien ressenti évidemment pendant les premiers confinements, notamment, où évidemment je vivais pas seul, mais j'ai un peu repris le piano par exemple, je jouais 3 à 4 heures de piano par jour, et du coup j'avais l'impression de jamais être seul parce que je jouais une sonate de Beethoven, un nocturne de Chopin, une pièce de Ravel, et j'étais en dialogue en fait avec le compositeur, et c'est vrai que je pense que beaucoup de musiciens, malgré les difficultés qu'on a connues, en tout cas, moi, je me suis réapproprié pourquoi j'étais musicien. Ça, c'est vrai que ça a été une période finalement aussi très forte pour ça.
Et vous pensez que ça peut faire le même effet de l'écouter quand on n'est pas musicien ?
Je dirais qu'il y a quelque chose qui m'énerve, hein, parce que j'ai...
Ah, enfin !
Enfin c'est quand quelqu'un me dit « moi, j'écoute la musique classique pour me détendre ». Moi, ça ne me détend pas du tout.
Parce que vous la vivez intensément.
Oui, et puis je trouve que c'est une vision tellement cliché de la musique classique.
Réductrice.
Et réductrice. On peut pas se détendre en écoutant le Sac du printemps de Stravinsky ou une symphonie de Shostakovich ou de Brahms.
Vous recommandez Vivaldi et Handel pour susciter une émotion immédiate.
Oui, je pense que ça a été une grande partie du succès du baroque ces dernières années, de la redécouverte du répertoire baroque. Ce sont des compositeurs qui ont un rythme très puissant, une force de conviction. Il faut quand même s'imaginer que jusqu'à peu, les compositeurs composaient pour survivre, pour manger. Et si leur pièce ne plaisait pas, c'était un vrai désastre en fait pour eux. Donc ils avaient ce besoin de charmer. Et c'est ce qu'on entend quelques siècles après dans leur musique comme intact.
Vous qui avez investi un répertoire extrêmement large dans le domaine baroque, vous avez comme peintre préféré le baroque, Caravage, dont vous avez choisi le tableau Judith et Holoferne pour le livret de votre disque La Vanita del Mundo, paru chez Erato en 2020. Vous avez d'ailleurs aussi eu le rôle-titre de l'opéra Caravaggio en 2012, créé à Metz en version concert par Suzanne Giraud et l'écrivain Dominique Fernandez. Pareil, vous aimez les clairs-obscurs, Philippe Jarouski, vous aimez les oppositions, vous aimez en fait ce qui résume la nature humaine, la condition humaine dans toute sa complexité.
Peut-être. Alors, pour expliquer aussi un peu le Caravage, c'est vrai que ma première passion, c'était la peinture. En fait, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé la musique tard, parce qu'on n'avait pas pensé à la musique pour moi.
Vos parents n'étaient pas musiciens.
Pas du tout. Et dès l'âge de 8-9 ans, je reproduisais des tableaux de Franz Hals, Van Gogh, Picasso. Et c'était vraiment une passion. Et puis, après, j'ai découvert effectivement le Caravage en allant dans des musées et en me rendant compte que j'étais, je pense comme beaucoup, mystérieusement attiré par le tableau du Caravage qu'il y avait dans une pièce. Il y a quelque chose de qui tient de la sorcellerie. Hein, on sait qu'il ne faisait pas de dessin préparatoire. On a une peinture qui est complètement bouleversante. Et puis, je suis attiré, effectivement, comme j'ai un caractère plutôt, comme on disait au début, je m'aime bien, je suis plutôt une bonne patte, on dirait. J'aime bien faire rire les autres, par exemple. Je suis assez attiré par les personnalités comme ça,
sombre.
Un peu sombres et
presque
effrayantes, en fait. Ouais.
Parce que ça, il a eu une vie très romanesque où il y avait des rixes, des scandales, une homosexualité qui, à l'époque, était quand même compliquée à vivre publiquement, un exil, un meurtre.
Oui, et il faisait scandale par ses tableaux lui-même. Il peignait des seins avec les pieds sales. Et malgré tout, il était quand même protégé par les cardinaux, notamment de l'époque, parce que tout le monde reconnaissait son génie. C'était impossible de ne pas reconnaître ce génie, presque extraterrestre, je dirais.
Je suis tellement content que tu sois revenu.
Moi aussi. Promets-moi une chose.
Quoi ?
Je t'en prie, ne me ramène plus jamais à l'hôpital.
Quoi ?
Tu me le promets ?
Anne.
Tu me le promets ?
Anne.
Ne parle pas. N'explique rien. S'il te plaît.
Qu'est-ce que tu veux que je dise ?
Rien. Ne dis rien. Voilà.
2012, le film Amour de Michael Haneke, Palme d'Or à Cannes, multi-récompensé au César, Oscar du meilleur film étranger pour ce drame avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva et Isabelle Huppert. Heureusement que je n'anime plus l'émission Remède à la mélancolie. C'est absolument sublime, bouleversant et dévastateur.
Oui, et je sais que dans mon entourage, notamment, je parlais de ce film, il y a beaucoup de gens qui ont peur de le voir. Il y a des gens qui disent, oui, je sais que c'est un bon film, mais je n'ai pas envie de le regarder.
Parce que c'est ce qu'on ne veut pas voir dedans. Est-ce que vous pouvez faire une ébauche de l'intrigue pour les auditeurs?
Oui, c'est tout simplement, oui, d'ailleurs, c'est une professeure de piano à la retraite, voilà, qui, un beau jour dans sa cuisine, a un AVC, et puis c'est le récit de cette long cheminement vers la mort et du mari qui l'accompagne jusqu'à la fin. Et le choix même du titre du film est fantastique parce que l'amour, c'est ça. Finalement, l'ultime preuve d'amour, c'est cela. Et j'encourage tout le monde à le regarder parce que c'est vrai que on sort pas intact de ce film et en même temps, ça peut donner une incroyable pulsion de vie. Je crois qu'on parlait des téléphones qui nous anesthésient. Je crois que ça peut nous rappeler le fait qu'on vit actuellement et que il faut, je dirais pas goûter chaque minute, c'est un petit peu simpliste, mais en tout cas ressentir qu'on est vivant et ne pas s'anesthésier de ça.
C'est Alexandre Tarot qui a fait la bande originale du film, le pianiste,
et qui joue dedans le fils, oui.
Et la musique classique pour Haneke, qui en utilise rarement dans ses films, de la musique, pour lui, c'est un don des dieux accordé à l'humanité pour lui permettre de vivre.
Oui, et d'ailleurs, je remarque que quand même beaucoup de cinéastes sont de très très grands mélomanes, notamment de la musique classique. Alors évidemment, on pense aux anciens, à Kubrick et à d'autres. Mais c'est parfois très amusant. Moi, des fois, je vais au cinéma avec des amis qui sont pas très branchés musique classique. Et quand tout à coup ils entendent un morceau classique sur des images, ils sont absolument emballés. Et souvent je dis, ça c'est du Brahms, ça c'est du Beethoven. Et c'est amusant parce que ça les surprend, ils pensent que la musique a été créée pour le film.
Oui, mais Haneke dit que la musique d'un film doit toujours être une structure musicale, donc bravo.
Cette grande invasion de la sexualité, de l'érotisme dans la littérature, je dois dire que j'ai quelques réserves. Malgré cela, je suis bien sûr très attiré par les situations érotiques, mais seulement dans la mesure où cette situation érotique me dit quelque chose en plus. C'est donc seulement dans la mesure où cette situation érotique est révélatrice.
Milan Kundera chez Bernard Pivot dans Apostrophe en 1984, au moment de la sortie de l'insoutenable légèreté de l'être en France. C'est le livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, selon vous, Philippe Jarouski. C'est sur la complexité des rapports amoureux, sur la complexité de la façon de vivre avec soi, sur la vie intérieure des êtres, et je vous laisse prendre le relais.
Oui, c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu à l'adolescence. Je suis pas un très gros lecteur, je lis beaucoup plus de partitions que de livres. Mais c'est vrai que c'est un livre qui m'a peut-être sorti d'une forme de naïveté, je dirais. Il y a des œuvres comme ça.
C'est cruel, ce livre.
C'est cruel, mais je pense nécessaire. C'est qu'incapacité, peut-être, parfois, qu'ont les êtres à se comprendre entre eux aussi. Peut-être aussi de voir que finalement, on n'est pas toujours à l'écoute de ce que veut l'autre et qu'on est plutôt dans une relation qui est plus narcissique qu'autre chose, ou on veut se rassurer, et on n'écoute pas forcément toujours l'autre. C'est pas que d'ailleurs que dans les relations amoureuses, mais j'ai presque eu l'impression que cette forme de désenchantement dans ce livre qu'on peut ressentir est une étape nécessaire dans le passage à la vie d'adulte, je dirais.
Parce que il décrit plein de rapports amoureux différents, dont aucun n'est profondément heureux finalement. Et c'est une variation musicale, puisque lui aussi parle beaucoup de musique dedans, autour de l'idée qu'il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car on n'a aucun élément de comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois, sans préparation, sans répétition.
Exactement, mais c'est en même temps formidable, ça peut être... De se rendre compte de ça, ça peut être formidablement libérateur aussi.
Oui.
Ça permet peut-être aussi de déculpabiliser, d'être peut-être aussi parfois plus indulgent avec soi-même, et puis de se rendre compte que tous les objectifs qu'on peut plus ou moins peut-être se fixer dans la vie sont peut-être un peu illusoires aussi.
Bon, une lecture à recommander de façon éternelle, évidemment.
Voilà. En écoutant le quintet de Schubert, c'est encore pire.
Évidemment, et puis qui, hélas, a un écho avec la situation actuelle, puisque ça se passe à Prague en 1968 et que le pays est envahi par les Russes.
Being out of free, doors are the way you leave. Open it up to me.
Lone, d'Aldous Harding dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Philippe Jarouski. À la fin de votre vie, vous aimeriez pouvoir vous regarder dans une glace et vous dire que vos actes ont toujours été en cohérence avec votre ligne de conduite et que vous avez apporté du plaisir et de la joie aux personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est bien parti pour le moment ?
Je pense. Pas, peut-être pas à 100%, mais entre 90 et 95%.
Et je crois que vous avez toujours une frustration quand vous pensez à votre carrière d'instrumentiste, parce que vous étiez vraiment parti pour être instrumentiste avant d'être chanteur, Philippe Jarouski.
Oui, j'ai commencé par le violon, après j'ai pas le piano. Mais,
à 11 et 15 ans.
Oui, et c'est vrai que mes professeurs ont toujours tout de suite trouvé que j'étais un bon musicien, mais que techniquement j'étais très en retard et j'étais pas doué digitalement. Donc j'étais très frustré de ne pas pouvoir réaliser aux instruments ce que j'avais finalement dans ma tête. Et le chant a été assez libérateur pour ça, parce que tout à coup j'ai découvert un autre monde. Et voilà. Mais c'est pour ça aussi que j'ai toujours encore maintenant beaucoup d'admiration pour les instrumentistes qui ont réussi à faire de la musique avec leurs instruments.
Vous avez hésité entre ça m'a amusé de lire ça, entre la flûte traversière au contact trop froid, le trombone au répertoire limité et le hautbois un investissement trop important.
Oui, parce que le hautbois, ça a été une vraie réflexion. J'ai beaucoup aimé le hautbois quand j'ai essayé l'instrument, mais c'est un instrument qui, au bout de, je sais plus trop, mais au bout de 3-4 ans, est acheté à la poubelle parce que c'est du bois et du métal et avec l'humidité, c'est un instrument qui a, alors que le violon, c'est un instrument qui n'a pas une durée de vie presque illimitée.
J'ai lu que, puisqu'on parle d'avenir, enfin on y pense, même si on est une créature de sensations et qu'on est dans le présent depuis que vous êtes entré dans ce studio, Philippe Jarouski, que vous abordez les années qui viennent en termes de désir d'œuvre que vous n'avez pas encore interprété, en pensant à réduire votre activité de chanteur. Vous allez être chef d'orchestre sur scène pour la première fois. Et puis vous allez aussi quitter le répertoire destiné au castrat peu à peu.
Oui, parce que c'est un répertoire très virtuose, souvent sur deux octaves, avec beaucoup de virtuosité. La voix change avec l'âge. Comme je dis souvent aussi, être chanteur, c'est vraiment, ça accentue l'introspection, parce qu'on on s'entend, je dirais, changer. Et c'est très enthousiasmant parfois, mais par exemple, voilà, je viens d'avoir 44 ans, j'ai l'impression que je peux mieux exprimer les sentiments et les mots à travers ma voix. Mais que la voix a perdu, je dirais, un peu de flexibilité, en tout cas. Mais elle a gagné en rondeur, elle a gagné en richesse. Donc, c'est, voilà, un chanteur, voilà, c'est un peu plus tard qu'un danseur classique, mais il doit penser un peu à sa reconversion, quand même, oui.
Ça vous attriste ?
Non, parce que pour moi, ça a toujours été le plus important, c'est de faire de la musique. Et j'ai commencé à diriger des concerts où je me rends compte que je découvre une nouvelle énergie chez moi, d'ailleurs, je suis un peu, comme on dit, on fire. et ça me contente autant que de chanter. Donc, je pense que je suis sur le bon chemin de la reconversion, j'espère.
Philippe Jarouski, en feu dans ce studio. Introduisons en musique ce que vous avez choisi de beau à recommander aux auditeurs. Ça, ce n'est pas votre choix, Philippe Jarouski, c'est ce qu'on a choisi, nous, pour illustrer ce que vous avez choisi. Là, vous entendez l'extrait du premier livre des Madrigaux de Monteverdi, interprété par la Compagnia del Madrigale, Baci Suavi e Cari, Baiser suave et si cher, pour introduire le baiser de Rodin, œuvre qui représentait à l'origine Paolo et Francesca, deux amoureux de la Divine Comédie de Dante, condamnés à errer dans les enfers après avoir été assassinés par le mari de Francesca. Ça devait appartenir à son projet La Porte de l'Enfer, inspiré par Dante et Baudelaire, mais le bonheur et la sensualité qui émanaient de la sculpture étaient en contradiction avec le projet, il en fit une œuvre autonome. Pouvez-vous la décrire et nous dire ce qui vous émeut dans cette œuvre ?
Déjà, elle est particulièrement mise en valeur dans un de mes musées préférés à Paris, le musée Rodin, évidemment, qui est un endroit magnifique. Je me rappelle, là, quand je l'ai découvert, en plus, le soleil traversait la fenêtre, et du coup, on avait des effets de transparence sur le marbre, c'est en marbre blanc. Et l'inclinaison des personnages, la façon dont l'homme tient la femme, on a l'impression que les doigts s'enfoncent dans la cuisse, enfin, c'est absolument incroyable, c'est une sensualité renversante. Et j'ai choisi ça parce que je me disais un petit peu d'amour dans ce monde de brut, et je trouvais qu'il y avait un mélange de force et de douceur, toujours un peu, toujours ces contradictions un petit peu, mais cet abandon aussi, et de se lâcher prise. Ça, je trouve que ça parle aussi de ça, c'est se déconnecter et faire confiance à l'autre aussi. Le baiser, c'est ça aussi, c'est un moment de don absolu, un baiser. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup ému aussi. Oui.
Il y a plusieurs représentations de ce marbre, et celui du musée Rodin a été sculpté par Jean Turcan, je vous le dis, parce que je l'ai appris en préparant cette émission, sous la supervision de
Rodin. C'est un petit peu décevant du coup, mais bon, Rodin. Ça reste quand même fidèle. Ouais, mais sous la...
Oui.
Oui, d'accord.
Qui aujourd'hui sans doute délocaliserait en Chine pour en faire plein.
Le résultat, je ne sais pas comment ça serait. Mais...
L'engagement que vous acceptez de prendre vis-à-vis de vous-même à la sortie de cette émission, Philippe Jarouski, c'est de peut-être enfin commencer à faire un peu d'activité physique, ce que vous avez négligé toute votre vie. Mais le chant, c'est quand même très physique.
Oui, mais j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Heureusement que tu as le chant, ça te fait faire un petit peu d'activité. » Parce que je me lève tard, j'ai toujours été un asportif. Ça m'a d'ailleurs, parfois, c'était très frustrant, notamment à l'école. J'avais vraiment des notes catastrophiques, aucune force physique. Ma mère me disait que j'avais lâchement abandonné mon corps. Et plus ça va, plus je me dis, c'est peut-être aussi là gênant, que je regrette de ne pas avoir été plus physique. Parce que notamment, quand j'ai abordé notamment l'opéra, la mise en scène, il y a eu des moments où j'ai beaucoup souffert, ça m'a beaucoup coûté. Et si j'avais eu plus de résistance physique, j'aurais eu plus de plaisir, je pense. Et c'est un vœu peut-être que je réaliserai pas, parce que ça fait des années que je me dis ça et je le fais pas. Mais je crois qu'effectivement, ouais, l'activité physique est quelque chose que je regrette de ne pas avoir plus approfondi pour peut-être aussi se sentir tout simplement mieux, effectivement aussi. Et je pense que ça aurait même changé probablement ma façon de chanter.
Mais peut-être de façon négative.
Alors oui, ça peut, hein, quand on fait trop de sport.
Vous chantez comme ça, bah, bah, bah.
Ouais, oui, c'est surtout au niveau des abdominaux, des choses comme ça, faut faire attention, faut peut-être pas trop se muscler, mais j'en suis très 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 loin.
Qu'allez-vous faire concrètement?
Alors concrètement, il y a une activité sportive que j'arrive à supporter, c'est courir déjà.
Ah, bah
alors voilà, j'ai la chance d'habiter près du parc des Buttes-Chaumont. Donc le printemps arrivant, je vais essayer de rechausser mes chaussures de sport.
Et puis vous en aurez sans doute besoin pour être chef d'orchestre, ce qui est très physique.
Oui, je me rends compte aussi, je découvre des muscles que je ne connaissais pas de mon corps. Et effectivement, je dois diriger mon premier opéra dans 2 mois. Et c'est 4 heures. Et donc c'est vraiment une course de fond. Donc oui, ça, je pense que ça va me motiver à me préparer physiquement.
Ben merci beaucoup, Philippe Jarouski.
Merci à vous.
D'être
C'était
venu.
Un grand plaisir.
Pour nous aussi, je rappelle le titre de vos 2 derniers albums, celui dont le titre est tiré d'une mélodie du compositeur Francis Poulenc, à sa guitare avec le guitariste Thibaut Garcia, sorti le 8 octobre dernier chez Erato Warner, et sur le même label, paru il y a un peu plus de 2 semaines, Dua Lita, album sur lequel vous dirigez la soprano hongroise Emeke Barat, que vous dirigerez en chair et en os sur scène le 11 mars prochain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, et le dimanche 13 mars à l'église de la Trinité à Lyon, accompagné de votre ensemble Artaserse. À signaler aussi votre direction de Jules César de Handel en mai et juin au Théâtre des Champs-Élysées et à l'Opéra Comédie de Montpellier, et le concert du gala des 5 ans de votre académie le 15 juin à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre semaine sera aussi éclatante qu'un bingo ayant fugué de la salle des fêtes pour accomplir sa destinée d'archéologue. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.